Shlumiel ben Tsurishadai, Nachshon ben Aminadav, Gamliel ben Pedatsur, sans oublier bien sûr Pagiel ben Achran. Je viens de vous lire une partie des noms des chefs de tribu d'Israël tels qu'ils figurent au tout début du quatrième livre de la Torah, le livre des Nombres. Le récit biblique, ce texte où chaque mot, chaque lettre est sous-pesé et appelle interprétation, est jalonné de telles listes, de personnages dont on ne nous raconte strictement rien, à l'exception donc de leur nom, mais ce qui est en fait déjà beaucoup. Norit Aviv, bonjour.
Bonjour Robert.
C'est ce dont on se rend compte, qu'un prénom raconte énormément de choses, à condition qu'on lui donne la parole, et c'est ce que vous faites dans votre nouveau film Prénom, en salle à partir du 11 mars, au cinéma Les Trois Luxembourg. Alors, on connaît bien votre œuvre, ça tourne toujours autour de la question du langage, des mots. Vous recueillez le récit d'un certain nombre de personnes. C'est les mots, mais en fait, votre film, c'est aussi un film sur l'amitié.
Finalement, c'est surtout un film sur l'amitié. Et parce que je suis allée voir 22 amis. En fait, je voulais faire tout l'alphabet. Et je suis tombée sur... C'est-à-dire, il y a 26 lettres, mais pour 4 lettres, je n'avais pas d'amis. Alors, ça a donné 22 et j'étais très contente parce que c'est les 22 lettres dont parlait Sefer Yetzira, que Dieu a créé le monde. Donc, je trouvais que si je tombais sur le chiffre 22, c'est formidable. Et en fait, c'était en vue d'une installation. Mmh. Elle va se faire. Mmh. Et au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, ah. Hommage, je vous annonce une nouvelle. Et comme ça a traîné, ça va se faire en novembre, et tout d'un coup, il y avait un film qui était là, qui m'attendait, avec 13 voix. Et 13, c'est pas mal, parce qu'en guimatria, ça fait Ahava.
Ah, et, l'amour.
L'amour.
Ouais.
Et c'est exactement dans cette tendance-là que je suis plutôt l'amitié. C'est les amis, c'est des gens que j'aime. Ouais. Et tous ceux qui sont dans le film, et dans les 22 en fait, c'est des gens que j'aime. J'ai choisi que les amis. Et ces amis-là, de quoi ils parlent de la chose la plus intime et la plus universelle en même temps. Je dirais plutôt tout le monde, comme dit Édouard Glissant,
ouais.
Qui est le prénom.
Ouais.
Et dans un moment de grande déprime par rapport au grand désastre qui on inflige de la haine dans tous les sens, mm-hmm. des guerres, et que comme si j'avais besoin d'aller vers quelque chose qui est le contraire, donc quelque mm-hmm. chose qui réunit, qui est du même. On a tous des prénoms. Mm-hmm. Et je trouvais tellement des liaisons entre ce que disaient mes amis et mm-hmm. tellement... d'amitié, de générosité, la manière dont ils m'ont reçu et les cadeaux qu'ils m'ont donnés.
Vous aussi, vous faites des cadeaux. C'est quelque chose qui m'a interrogée. À chaque intervenant, vous offrez une plante.
Une plante ou une fleur. Ouais. Oui, je viens avec un bouquet.
Pourquoi ?
Des fleurs. Et je vais chez les amis. Toujours, je viens avec des fleurs. Et je viens avec les fleurs. Et eux, ils me donnent en échange, les cadeaux de d'un bouquet de paroles, et des paroles vraies, des paroles justes. Mmh.
Je m'appelle Rim, je suis née en Algérie, et je suis arrivée en France quand j'avais 2 ans. Et ce prénom, Rim, il était très bizarre partout où j'allais. Tout le monde me renvoyait cette étrangeté, où que j'aille, même en Algérie. Quand j'allais en vacances l'été, quand j'étais petite, je retournais souvent en Algérie et je sentais bien que mon prénom détonnait partout et même dans la famille. Parce que toutes les femmes de ma famille, elles avaient un A dans leur prénom, à la fin de leur prénom. Et moi, j'avais pas ce A. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'on m'avait appelée comme ça, avec ce prénom si sec. Et en France, à l'école, ou même partout ailleurs, on me faisait toujours répéter mon prénom. On me demandait toujours, est-ce que c'est un surnom? Est-ce que c'est un diminutif? Ça sonnait pas comme un prénom, en fait, pour les gens. Et aussi, on ne savait pas le prononcer.
Ce qui est paradoxal avec le prénom, c'est qu'en français, on dit « comment tu t'appelles ?» ou on dit « je m'appelle un tel ». Mais en fait, c'est traître. Parce qu'en vérité, on est toujours appelé par quelqu'un d'autre. En hébreu, on l'entend bien d'ailleurs, on dit « korim li ». On m'appelle ainsi. Parce qu'on reçoit ce prénom et après, on passe sa vie à se débattre avec.
En effet, dans le film... c'est pas forcément débat. Il y a ceux qui se débattent, ceux qui sont contents, ceux qui disent que c'est un cadeau, ceux qui trouvent après qu'ils se sont débattus que finalement c'est un cadeau, ceux qui changent leur nom.
Oui.
Et c'est-à-dire que ça nous travaille toute la vie. On nous appelle avec ses prénoms, on l'attend tout le temps, et parfois il prend une autre dimension. On ne connaît plus, c'est tout un cheminement avec son prénom.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est en même temps ce qu'il y a de plus intime, ce que vous disiez, et en même temps, ça ne nous appartient pas.
Stanisław, mon nom de baptême, est devenu mon nom d'état civil polonais, et également mon nom d'état civil français, mon unique prénom d'état civil. Mais personne ne m'a jamais appelé Stanisław. La famille Baczeniuk m'a élevé jusqu'à mes 2 ans et demi. À ce moment-là, j'étais arraché à cette famille. Après beaucoup de péripéties tragiques, en 1947, à l'âge de 3 ans, j'ai retrouvé ma mère à Paris. Elle était revenue de camp de concentration. Mon père avait été tué. Elle s'était déjà remariée et j'ai trouvé un nouveau père qui a continué mon éducation. Ils ont gardé l'usage de mon prénom Edjo. Je ne sais pas, je ne me souviens pas comment a pu se passer la transition entre le Edjo, prénom polonais, et Édouard, le prénom français. Quand mes 13 ans ont approché, ma mère m'a attribué un nouveau prénom, un prénom juif, Haïm Leib. Il semble bien qu'il n'a servi qu'une fois, le jour de ma bar mitzvah, dans la bénédiction prononcée par le chantre de la synagogue.
Il y a les traces des désirs de nos parents, des dents, toujours. Et même s'ils appellent au nom de, selon une certaine tradition et tout ça, il y a quand même le fait que les parents, oui, ils ont laissé leurs traces, évidemment, dans nos prénoms.
Même si les parents eux-mêmes ne sont pas toujours complètement au fait de ce qui est en jeu quand on donne ce nom. Souvent, c'est après coup qu'on réalise tout ce qu'il y avait dans ce nom.
Oui, surtout qu'il se trouve qu'il y a pas mal de personnes, je dirais la plupart, qui sont ou nées eux-mêmes à l'étranger, ou les parents.
Moi, je m'appelle Sarah. Je suis la fille de Marie-Hélène. Elle est française, champenoise, aussi un peu ch'ti. Et Goni, il est Kanori du Niger.
Et les passages d'un endroit à l'autre, d'une langue à l'autre, dans les passages d'un pays à l'autre, et les parents, quand ils ont donné, ils ont pas forcément, ils savaient pas que la personne va se trouver dans un autre pays. Et que le nom qui peut être un nom courant dans un pays est imprononçable dans l'autre, qu'il est incompréhensible dans l'autre, qu'il n'a pas la même, qu'il dit pas la même chose. Ça et ça, ils en parlent tous presque. Ils parlent tous en français. Je crois qu'ils sont même tous français. Et chacun a une autre histoire qu'il amène d'ailleurs.
Il y en a qui viennent de Pologne, il y en a qui viennent de Chine, il y en a qui viennent d'Iran.
Oui,
et à chaque fois,
Tadjikistan, Turquie.
Et à chaque fois, il faut recomposer la transposition de ce nom du pays d'origine au pays d'accueil.
C'est ça.
En France, je suis née à Paris. Et qu'en France, les gens ne prononcent pas le H aspiré. Donc il fallait toujours expliquer, quand je me présentais, d'abord les gens ne comprenaient pas mon prénom. Ils le déformaient, ils pensaient que je disais Céline, Ingrid. Et il fallait que j'explique qu'on disait Hind et pas Ind, et que c'était le H aspiré comme en anglais, Hello, Happy Days. Donc déjà, quand je rencontre quelqu'un, le fait même de me présenter est compliqué.
Il y a les prénoms qu'on porte et puis il y a aussi les prénoms qu'on ne porte pas. Souvent, on nous dit, ouais, si tu avais été une fille ou si tu avais été un garçon, tu te serais appelé ainsi ou si tu étais né dans un autre contexte. Il se trouve que le film commence par votre prénom, Nourit.
Oui.
Vous savez comment vous seriez appelé si vous étiez né à Berlin ou vous seriez probablement né si l'histoire n'était pas celle qu'on connaît ?
Ruben, on est né que... parce que les parents ont fait l'amour à la seconde qu'ils ont fait l'amour. Sinon, ça aurait été nos frères. Moi, c'est ce moment-là dans l'histoire. Mmh. Mais ce que je trouve bien, que, en fait, dans tous ces mouvements de renouvellement de la langue, on a inventé des noms aux fleurs et on a donné à la fleur qui fleurit à mon anniversaire le nom nourrit, parce que ça vient de nour, qui est la lumière en arabe, et le feu en araméen, ce qu'évidemment mes parents ne savaient pas du tout.
Mmh. On l'entend dans la chanson Khat Gadia, ça. Noura, c'est le Noura, feu.
C'est le Noura, feu. C'est
le qui feu. Brûle le bâton.
Oui, ouais. C'est ça. Et je me rappelle même qu'il y avait des allumettes, des boîtes d'allumettes, qu'il y avait une société qui s'appelait Nour. Et je vois le mot Nour marqué sur les allumettes, sur la boîte d'allumettes. Mais donc, dans ces mouvements de renouvellement, ma mère a donné le nom Nourrit. Mmh. Ce que je trouve marrant, c'est que mon père l'a amené en diaspora en ajoutant les H, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire. Quand ça s'écrit en lettres latines, on peut écrire Ruth sans. Mais qu'il avait comme référence Judith et Ruth. Hein.
Ah oui.
Et du coup, il a réjudaïsé, c'est-à-dire remis en diaspora ce nom qu'il connaissait lui d'avant. Donc il y a comme deux mouvements
dans
un seul nom.
Parce que votre père, lui, venait d'Allemagne.
Oui, de Berlin.
Donc il a re-germanisé l'hébraïsation qui était en cours.
C'est ça.
Quand on se convertit au judaïsme, on change de nom, on acquiert un nouveau nom. Mm-hmm. Pourquoi les gens, de manière générale, ils choisissent dans leur vie de changer de nom? Qu'est-ce que ça dit des...
Pourquoi ils ont envie de changer de nom?
Il y a ça dans votre film aussi, des gens qui...
Oui, Goulia, par exemple, qui s'appelle en fait Gulbahor, nom tadjik. Et son père voulait que ses enfants parlent que russe. Hein. Mais lui, le poète tadjik, était très russophone, donc il voulait qu'il parle. Hein. Donc il ne savait même pas forcément le dire bien. Goulia raconte qu'elle a pris le tadjik dans la rue. Mmh. Elle est née en Tadjikistan. Et elle a décidé de que son nom, Goulia, qui est le... diminutif, comme tous les noms russes, qu'il devient ici en France un nom légal. Elle s'est battue pour ça.
À l'aide d'un avocat, j'ai déposé une requête au tribunal de grande instance de Strasbourg. À l'époque, on vivait à Strasbourg. Et le 6 juillet 1998, je suis officiellement devenue Goulia.
Ce qui est drôle, vraiment, que Goulia, Gulbahor, son nom, ça veut dire fleur de printemps. Mm. C'est-à-dire comme moi, parce que moi, parce qu'on est nés à un jour de différence, toutes les deux. C'est-à-dire, on est nés un jour de différence, et son père à elle, et mes parents à moi, ma mère, je crois, ont choisi quelque part les mêmes, parce que Nourrit, c'est une fleur de printemps.
Vous êtes doublement printanière, parce que Aviv, c'est le printemps.
Oui,
vous êtes la fleur du printemps.
Oui, ça c'est le nom que j'ai hérité de mon mari, mais Aviv. Mais ce qui est drôle, que Aviv contient dans le mot Aviv, qui est le printemps, on attend Avi, mon père. Mmh. Donc le père y est quand même, bien qu'on a fait l'alliance avec le mari. Mmh. Mais ce qui est quand même drôle, on est un jour de différence. Le père tadjik appelle sa fille fleur de printemps.
Il y a quand même cette dimension toujours très psychanalytique, hein, je trouve, dans vos films. Ça ressemble un petit peu à un condensé de plusieurs séances de psychanalyse, chaque entretien. Et en l'occurrence, dans ce film, prénom, derrière les prénoms, derrière les noms, il y a aussi le nom. C'est au tout début de votre film, d'ailleurs, qu'il y a cette citation d'une poétesse israélienne qui dit que, en fait, on reçoit notre nom de nos parents, mais aussi de Dieu. Et il se trouve que dans la tradition juive, Dieu, il s'appelle le nom. Pourquoi, d'après vous, pourquoi on appelle Dieu le nom?
Parce qu'il est imprononçable, donc c'est le nom par excellence. D'ailleurs, mon film « Des mots qui restent », je commence par ce nom imprononçable. Yud, Hey, Vav, Hey. Mais c'est qui vraiment, je raconte ça dans l'autre film, que on était dans une école à Tel Aviv, laïque, et même militante, laïque, socialiste et tout ça. Et on nous a dit, voilà, quand vous voyez les Yud, Hey, Vav, Hey, vous dites Adonai. Donc, on voit un nom, et il faut prendre un mot, il faut prononcer un autre. Mais on nous a rien dit là-dessus. Je trouve ça, on a dit c'est comme ça. Pourquoi ? Et quand même, c'est une école laïque, et moi je ne les prononce jamais. De un ansprechliche, disent dans Tselan, les imprononçables. Et moi, je trouve cette idée formidable qu'il y a un mot dans la langue qui est imprononçable. Il les renvoie à quelque chose qui est au-dessus de nous.
Qui échappe au langage, en fait.
Qui échappe au langage. Et je trouve ça une invention incroyable, parce que c'est le nom, le nom.
Est-ce que ça serait pertinent de dire que toute votre œuvre, finalement, cette somme de films autour des mots, ça serait une quête du mot, de ce mot autour duquel vous... tout le monde
tourne. Ce qui est sûr que je tourne autour de quelque chose qui m'échappe. Ça, c'est sûr. Après.
Il y a cette idée, d'ailleurs, dans la tradition juive, que tous les mots de la Torah sont des noms de Dieu. Que l'ensemble des noms, je ne sais pas combien il y en a, on dit, je crois, 613 000, mais enfin, ce n'est pas une approche scientifique de la chose. Tout ça, c'est des noms de Dieu, en fait. Et que, d'une certaine manière, les noms qu'on porte sont aussi...
C'est le nom du nom.
Voilà.
C'est ça. J'aime bien que ça soit le nom du nom. Moi, j'ai toujours l'impression que peut-être le mot existait avant. Par exemple, Babel, on sait que c'est El Babel, et comme ça. Donc, quelqu'un l'a entendu et a fait un jeu de mots, parce que dans sa langue à lui, parce que c'était un mot d'une autre langue, et dans la langue hébraïque, il a attendu les Balbel. Et du coup, le récit s'est fait.
C'est-à-dire la construction du récit se fait a posteriori.
Mais peut-être il est là dedans, avant, je ne sais pas, les secrets de...
Il a fait la poule un peu.
Oui, c'est ça.
Il se trouve que dans la tradition juive, concernant les garçons en tout cas, le nom est donné au moment de la circoncision, au moment où on coupe quelque chose. Vous aviez consacré un film déjà à la circoncision. Quelle compréhension vous avez de ça, du lien entre la coupure et le fait de donner un nom ?
La coupure, c'est l'entrée dans le langage. Et le nom, qu'est-ce qui est plus langage que le nom et le prénom ? Mais je trouve que ce qui est... On n'en parle pas beaucoup du fait que c'est Jésus qui était circoncis. C'est là où c'est marqué que... Je ne sais pas s'il y a un autre endroit où c'est marqué qu'on circoncit le huitième jour. C'est marqué dans Saint Luc, je crois que c'est B22-21, où c'est marqué qu'il était circoncis et nommé le huitième jour. Je crois que c'est là où c'est dit que les Juifs ont circoncis le huitième jour et nommé en même temps le huitième jour. C'est marqué là. Et je ne sais pas si c'est marqué ailleurs.
Il y a aussi une source de ça dans le changement de nom d'Abraham, qui est concomitant à sa circoncision.
Avec les Hey qu'on lui ajoute, c'est ça. Et on change son nom.
Voilà. Et il reçoit aussi son nom à ce moment-là.
Et on lui dit que le huitième jour, mais qu'il va circoncire, mais c'est pas... Mais je crois que dire qu'on est nommé le huitième jour... Et d'ailleurs, moi, je crois que le 1er janvier, on sait que c'est le jour de la circoncision. Oui. Et je crois que les 25, si on va 8 jours en arrière, on tombe sur la naissance.
Bien sûr.
Mais pas à l'envers, parce que 25, on dit toujours, oui, c'est... l'hiver qui commence, etc. Mais dans ces cas-là, ça aurait dû être les 21, mais c'est les 25 qui sont 8 jours de la circoncision. Et je crois que la circoncision était décidée au 4e siècle, autant que je sache, et on parle de la circoncision du Christ le 1er janvier, on a mis sur une fête païenne, on a mis le premier, la circoncision du Christ, et on est allé 8 jours en arrière, on a décidé qu'elle est 20, évidemment, 25, c'est sa naissance, et pas dans l'autre sens.
Le nom, c'est aussi ce qui reste d'une personne après sa mort, finalement. Il ne reste pas grand-chose, il reste les récits, et puis il reste une tombe.
Son nom et son prénom, les deux.
Son prénom, son nom. C'est ce qu'il y a aussi de plus unique chez quelqu'un.
Vous me rappelez ma mort, hein, je suis vieille.
Nous sommes tous mortels.
Oui, c'est ça. Ce qui reste après, avec les films, sur le nom et les prénoms, qui vont rester de moi.
Alors, il y a quelque chose de très beau qui conclut votre film. La personne que vous interrogez, elle bégaye.
La dernière.
Ouais.
Avec les Z, ouais. Zeynep.
Autour de mon prénom, il y a l'histoire de mon bégaiement, parce que je suis bègue. Et il se trouve que mon bégaiement survient surtout avec des choses qu'il faut dire très précisément, avec un texte très établi, quand on ne peut pas faire de synonyme, quand on ne peut pas faire de paraphrase. Et quoi de plus précis que son prénom à soi ? Là, du coup, si le bégaiement arrive, on ne peut pas faire semblant de chercher, de pas se souvenir. Donc c'est vraiment attendu qu'on dise son prénom quand on vous le demande. Donc je bégaye assez souvent, en fait, quand on me dit de dire mon prénom. Mais je m'estime quand même heureuse parce que la lettre Z et ses vibrations, ses sons, ce Z, c'est ce qu'il y a de plus facile pour la bègue que je suis. Donc, dans un sens, c'est une histoire qui se termine bien parce que mon bégaiement, la lettre Z, sa vibration et moi, on arrive à composer et à nous en sortir.
Oui, elle bégaye et moi, je lui dis, puisque tu es la dernière, ça me plaît beaucoup, beaucoup que tu parles de ton bégaiement. Mm. Et parce que ça me plaît beaucoup que le film finit par un bégaiement. Mm. C'est Moïse qui a bégayé. Mm-hmm. Et je crois que c'est l'an dit qu'on peut qu'ébégayer. Et j'ai trouvé que c'est formidable que le film finit par une femme qui bégaye et qui parle de son bégaiement, et qu'elle peut parler de son bégaiement. Je crois qu'elle m'a fait le plus grand cadeau de tout le film.
Elle est incroyable, cette citation de Célan, là, que vous venez de dire, qu'en fait, la forme la plus aboutie de parler, c'est bégayer.
On peut qu'ébégayer.
Pourquoi ?
Mais qu'est-ce qu'on sait du monde ? On n'est pas sûr de rien. Mmh. Il faut être conscient qu'on bégaye, qu'on n'est pas, qu'on marche pas, que rien n'est sûr, que rien, on ne parle pas comme ça, d'une manière sûre, ça fait peur. De gens qui parlent d'une manière trop sûre d'eux-mêmes. Il y a toujours une hésitation et elle devrait y être.
Prénom, il faut aller le voir à partir du 11 mars au cinéma Les Trois Luxembourg. Comme d'habitude, il y aura des rencontres, des entretiens et toujours...
Trois fois par semaine, il y aura de rencontres avec, cette fois-ci, les intervenants, mes protagonistes, plus quelqu'un. Mais je dois rappeler quand même que le film sort normalement au cinéma et qu'on peut aussi aller aux séances sans rencontre.
Puis donc il y aura la suite de ce film à travers l'installation au Musée d'art et d'histoire du judaïsme.
C'est ça, en novembre. Et ça va rester un an.
Et puis surtout, il faut se rendre sur votre site internet via lequel on peut ensuite regarder tous vos films. Et j'invite tous les auditeurs à le faire. Merci,
merci
beaucoup, Norita Vive. Et on se retrouve pour votre prochain film.
Merci à vous. Merci beaucoup.